Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous allons, Thierry, à la rencontre du visage du créateur. Or, rien de véritablement mystique par rapport à cela, quoique il paraît qu'il y en a qui sont partis dans l'espace et qui y ont trouvé Dieu, d'autres pas. Alors, peut-être est-ce en lien avec cela, effectivement, nous allons parler en tout cas d'une aventure spatiale que ceux qui ont vécu les années 80 gardent en mémoire très probablement. Le visage du créateur, c'est un album paru chez Rue de Sèvres, avec au scénario Laurent-Frédéric Bollé, dont nous avons parlé il y a peu de temps, avec Loin des Eucalyptus, qui nous transportait à la fois en Australie et en Grande-Bretagne. Il était question de cricket, je ne sais pas si vous en souvenez, Thierry, vous avez
aimé
cet album.
Ah oui, c'est un de mes albums préférés de ces derniers mois, sans doute de l'année qui est en train de s'écouler. J'y retrouve les qualités que j'avais dans La Bombe, une précision documentaire assez remarquable, et en même temps, le souci de l'humain, le souci constant, qui fait que ce visage du créateur, qui pourrait être une simple transcription d'une enquête sur une catastrophe spatiale, devient une aventure humaine et poignante. Littéralement poignante.
Le dessin y est aussi pour quelque chose d'ailleurs, puisque c'est un dessinateur italien qui est passé par l'animation, Cristiano Spadoni, et qui nous fait penser beaucoup au dessin des Guerres de Lucas, par exemple.
Peut-être aussi à Bastien Vivès, pour la légèreté, le côté croquis pris sur le vif, mais effectivement aux Guerres de Lucas, dans la simplicité, la force dans la simplicité, l'exactitude sans pesanteur, sauf si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, pour un album qui parle de conquête spatiale.
Voilà, nous sommes à la fin des années 90, on rencontre un père et son fils pêcheurs qui sont en train de retirer les filets.
Et dans les filets, ils vont trouver des débris de la navette spatiale Challenger qui avait explosé 10 ans auparavant. Et ça va être l'occasion pour le père de raconter à son fils ce qui s'est passé, jusque dans ses moindres détails, de revenir sur ce qui a été un traumatisme épouvantable pour le monde entier, mais pour les États-Unis notamment, puisque la navette a explosé au moment où le président Reagan devait faire son discours sur l'état de l'Union, et ce discours a été remplacé par une allocution dans laquelle, effectivement, il se trouve citer cette phrase, le visage du créateur, puisque c'est les membres de la navette Challenger ont été contemplés le visage de leur créateur.
Cela nous ramène aussi au début de la conquête spatiale, en tout cas à certains prémices au niveau des États-Unis. On est emmené dans l'univers également de Star Trek.
Oui, il y a un deuxième flashback. On est à la fin des années 60. Star Trek connaît un beau succès de notoriété, notamment pour un de ses personnages qui est une Afro-Américaine.
Michelle Nichols.
Qui songe à quitter la série. Elle est devenue un symbole, malgré elle, bien commode, d'égalité, censément des chances pour les Afro-Américains. Elle songe à quitter la série parce qu'elle est employée pour des raisons qui sont purement commerciales. Elle va rencontrer le pasteur King. Donc, on est une année avant l'assassinat du pasteur Martin Luther King. Qui va lui dire « Non, non, restez parce que vous faites progresser la cause. » La navette Challenger, quand on prend cette histoire en cours de route, c'est aussi l'aboutissement d'un programme qui s'appelle Teacher in Space, qui fait qu'on va emmener des civils dans la navette, dont une institutrice. C'est l'occasion, je pense, de relier ces deux faits dans le sens où ce serait... la navette, c'était aussi une façon de justifier les efforts colossaux au point de vue budgétaire des États-Unis à l'époque de la nouvelle conquête spatiale pour contrer l'Union soviétique. C'était une façon aussi de justifier le programme d'exploration spatiale avec les sommes qui étaient engagées, lui donner une dimension humaine et pédagogique.
Ce qui est frappant, Thierry, c'est qu'effectivement, à cette époque-là, on était en admiration devant ces différents exploits, on peut le dire, qui permettaient d'aller sur la Lune d'abord et puis dans l'espace ensuite d'y vivre pendant des semaines et des semaines. Aujourd'hui, on est toujours fasciné par cela. Dès qu'il y a quelqu'un de chez nous, si je puis dire, on a beaucoup parlé de Thomas Pesquet, mais plus récemment, il y a d'autres astronautes qui ont eu l'occasion, et des femmes en particulier, de s'envoler vers l'espace, des Françaises aussi. Eh bien, à chaque fois, on est attentif à ces moments-là. En Occident, en tout cas.
Ce vol de la navette, c'était un peu une préfiguration de ce qu'est maintenant, de ce qu'a été le vol de notre spationaute. Alors, les moyens ont changé aussi. Il avait des moyens techniques à sa disposition qui lui permettaient d'être en relation directe, de faire des démonstrations scientifiques à visée pédagogique. Son talent de communicateur était beaucoup plus facilement mis au service d'une noble cause. Mais c'était cette institutrice dont on va précisément suivre Le compte à rebours, parce que le récit est rythmé par un compte à rebours qu'on sait fatal et pourtant on est pris, même si on connaît la fin tragique. Cette institutrice, c'était un peu les débuts de ce qui aurait été, oui, de l'aboutissement avec Thomas Pesquet.
Cette institutrice enseignante donc s'appelle Christa McAuliffe. On a l'impression de vivre avec elle, qui est passionnée par l'espace, qui du coup est prête quasiment à tout sacrifier. Alors peut-être pas sa vie, malheureusement c'est ce qui va arriver, mais sa vie de famille, elle va en souffrir. Rassurément.
C'est ça qui est habile. Habile est un faible mot. Par rapport au scénario, comme on avait vu dans la bombe, c'est que c'est une aventure humaine. C'est une aventure scientifique, mais surtout une aventure humaine. On s'attache à chacun des personnages sans en privilégier, enfin si, un peu l'institutrice, parce que c'est ce qui a été le plus frappant parmi les victimes, si je puis dire. On la suit depuis ses premières motivations qui sont justement nées du personnage féminin de l'équipage de Star Trek. On la suit dans le long processus et le vaste processus de sélection, comme si elle s'apprêtait à gagner un prix suprême, son engagement, le fait que sa famille, malgré les sacrifices, va la suivre. C'est ça qui fait l'intérêt de cet album, c'est que l'humain est avant la machine. Mais hélas, la machine va vaincre l'humain.
Ce qui est frappant aussi, c'est que malgré le fait qu'on connaisse l'histoire, le compte à rebours qui est mis en place par Laurent-Frédéric Bollet, qui s'accélère d'ailleurs au fur et à mesure, eh bien, on nous laisse scotcher. On connaît la fin, mais on a envie de la reconnaître à nouveau.
Oui, c'est là qu'on voit les grands. C'est qu'ils peuvent utiliser une recette, alors au sens noble du terme. Ils savent déjouer les pièges de la relation pure et simple d'un récit qui est connu de tous, en privilégiant certains aspects ou en utilisant certains modes de narration qui font que on sait que ça va arriver, mais on imagine que ça pourrait ne pas arriver. On en vient à le souhaiter.
Oui, tout à fait.
Surtout qu'on sait qu'il s'en est fallu de peu et de beaucoup à la fois.
Et du coup, l'orgueil humain, je vais qualifier les choses ainsi, hein, joue un rôle prédominant dans tout ce qui va se passer ici. Parce que effectivement, ça permet de glorifier la puissance des États-Unis, ça permet de mettre en avant cette enseignante, ça permet de se dire, ben voilà, tout le monde est partie prenante dans une telle opération assez extravagante, enfin qui dépasse par bien des aspects l'entendement. Et en fait, pour que ça arrive, et aussi pour que la catastrophe arrive, il va falloir une succession d'éléments qui vont faire qu'on refuse de voir la réalité.
Écrasé par l'enjeu, je ne vais pas détailler ce qui s'est passé, mais il y a une forme d'aveuglement. À la fois, on sait qu'il y a un risque, que ce risque est surmontable, ça va être un pari sur le possible, l'impossible ou le tragique. Ça a tenu à très peu de choses. Je laisse au lecteur le soin de découvrir que c'est à la fois dérisoire et immense, ce qui a fait que ce qui aurait pu être une nouvelle page de la conquête spatiale est devenu une immense tragédie.
Alors même si l'on connaît bien l'histoire, ou assez bien en tout cas, on n'en a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et il y en a un en particulier qui, pour vous et moi, Thierry, a été une révélation dont on ne va évidemment pas parler, mais qu'on découvre à la fin du livre.
Oui, parce que j'étais persuadé que... Comment en parler sans en parler?
Que la navette avait explosé.
Oui, voilà. La navette a explosé.
Mais comment?
Et comment? De quelle façon? C'est là que l'aventure humaine devient une pure tragédie humaine. Mais je ne peux pas en dire plus, mais ça m'a littéralement scié, cette fin. Je n'en donne aucun indice, mais ça devient quelque chose qui vous renverse.
Alors, on pourrait presque dire qu'en fait, la fin est double, voire triple. Bon, vous voilà prévenus, chers amis lecteurs, on connaît la fin officielle, entre guillemets, enfin
les
celle
images,
qu'on a vue sur les
images
écrans.
Du panache de fumée, oui.
Voilà, on en a encore, il suffit d'aller sur Internet pour en trouver toute une série, mais il y a une autre fin qui a été celle de l'enquête, et puis il y a également la fin qui est en quelque sorte inventée par les auteurs ici, et moi je dois dire, je n'explique pas ce qui se passe, je n'ai pas pu me retenir, parce oui. Que ce qui se passe là ne peut que faire vibrer nos cordes intimes.
C'est poignant, c'est bouleversant, c'est si bien raconté, si autant crédible, parce que c'est déduit, on va dire. Ce qui est déduit est tellement proche de ce que je pense a été la réalité. Je ne peux pas en dire plus, mais la gorge se serre, rien qu'en y pensant.
Alors tout à l'heure, Thierry, je parlais de ces astronautes qui partent dans l'espace. Sophie Adenau est la première Française dans l'espace, partie donc ces derniers temps depuis Claudie Aigneret, il y a 25 ans, déjà un quart de siècle. Pourtant, ce nom nous est resté aussi. On a failli, pour autant, passer à côté de ce livre.
Oui, oui, j'avoue, je bats ma culpe. Je pensais que c'était un recensement assez basique. En fait, c'est le nom des auteurs du scénariste qui m'a attiré, parce que le fait de dire c'est les auteurs de la bombe, etc., c'est purement commercial, une accroche. Et je me suis dit, bon, ils n'ont pas pu faire quelque chose d'inintéressant. Et c'est pas inintéressant, c'est passionnant. Passionnant et poignant.
Voilà, et vous retrouverez l'ensemble des éléments. L'explication de ce fameux visage du créateur nous est donnée. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissiez déjà l'origine de cette expression. Mais là, vous aurez tout ce qu'il faut. Et ce qui est intéressant, c'est que cet album en bande dessinée est tellement complet qu'en fait, ça ne nécessite pas de dossier à la fin.
Ah ben c'est vrai, oui. Oui, c'est tout à fait juste. Tout est dit. À quoi aura servi effectivement un dossier ? Oui, c'est très juste.
Le visage du créateur, chez Rue de Sèvres, de Laurent Frédéric Bollet et Cristiano Spadoni. Nous vous conseillons vivement cette lecture que vous aimiez, la conquête spatiale ou pas. Merci Thierry, à très bientôt pour d'autres lectures.